Interview.
2 jours.
Bonjour, ici Erdivois et c'est l'heure de l'interview avec au studio aujourd'hui Philémon Garcia, bonjour.
Bonjour.
Et Jérémy Legland.
Bonjour.
Bonjour à vous deux. Nous aurons Virginie Cointopa qui nous rejoindra en cours d'émission et vous êtes tous les trois ici pour nous parler de la soirée de contes organisée ce vendredi 20 décembre à 20h30. Ça sera au Café Théâtre Andarta à 10. Alors, cette soirée de contes sera proposée par 4 conteurs, dont vous 3, et Gisela Papin également. Ce désir de proposer une soirée de contes, qu'est-ce que vous voulez partager ?
Alors, c'est pas seulement une soirée de contes. Là, ce vendredi 20, ce sera un acte de naissance d'un collectif de conteurs d'Iowa. Parce que voilà, on s'est réunis un mois de septembre, on s'est dit tiens, il y a 5 conteurs sur ce territoire du Diwa, c'est quand même l'existence d'une oralité qui est présente et pour avoir plus de visibilité, on s'est monté en collectif, le collectif des contents. Donc parce qu'on est content et parce qu'on raconte, donc ce collectif a créé à vocation à créer toute l'année des événements, des cercles conteurs, qui est un élément important, des cercles conteurs
participatifs,
voilà, et puis des soirées comme celle du vin, et à terme une nuit du conte qui aura lieu sur le territoire de Die. Donc voilà.
Virginie Cointopa qui vient de nous rejoindre. Bonjour Virginie, vous êtes une des personnes qui proposera donc des contes à cette soirée. Avant tout, ce désir pour vous de vous constituer en cercle de conteurs, quelle est cette motivation ?
C'était une idée, moi quand j'ai vu qu'on était un certain nombre avec différentes initiatives, j'ai proposé à mes petits camarades de se voir pour en discuter, pour voir ce qu'on fait déjà les uns les autres, et puis être plus visible, avoir un collectif de conteurs plus visible quand la mairie cherche un conteur pour une action, quand la bibliothèque cherche un conteur pour une action, quand les écoles cherchent un conteur. Donc avoir une oralité visible, et c'était l'idée de ce collectif. Donc, on est 5 conteurs. Alors, vous avez cité 4 personnes. Donc, il y a nous 3, plus Ghislain qui n'est pas ici aujourd'hui. Mais il y a aussi Léon Lecomte, qui est absente pendant ces 15 jours, donc qui ne sera pas là le vendredi. Donc, nous sommes 5 conteurs pour l'instant.
Sur le Diwa, je pense qu'il y a plus de
conteurs.
Oui,
voilà. Oui.
Voilà. Là, nous, on s'est un peu regroupés autour de la ville de Die. Je veux juste dire qu'il y a d'autres conteurs.
Il y a aussi le fait que j'ai écrit dans les mails de création du collectif, j'avais écrit à d'autres conteurs, notamment sur Luc, sur Recoubo, tout ça. Donc il y a 3 autres conteurs à qui j'ai écrit qui n'ont pas répondu. Donc voilà.
On pourrait rappeler ce qu'est un conteur dans la tradition aussi de sa présence au sein de foyers pour peut-être animer des soirées. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui perdure encore ?
Peut-être que juste moi, souvent quand j'arrive pour raconter, souvent je souligne que je n'ai pas de livre avec moi, que je vais raconter une histoire, mais je n'ai pas de livre. En fait, le livre, c'est moi. Enfin, je l'ai intégré, quoi. Je l'ai intégré et du coup, c'est ma voix qui raconte. C'est beaucoup aussi mon corps qui raconte mes mouvements. Et donc, cette petite expression de bouche à oreille, voilà, pour moi, en tout cas, on est dans une oralité et on n'a pas un support d'un livre. On n'est pas non plus dans du théâtre. Il n'y a pas de décor. Il pourrait y en avoir, mais c'est pas ça le cœur du projet. Et puis on s'adresse, on a une adresse directe avec le public. Souvent, je sais pas comment on sera en Andarta, mais souvent on le voit un peu le public quand on compte. On n'est pas complètement coupé du public.
Ça reste de l'ordre de l'intime quand même aussi.
Il y a différentes formes, différentes pratiques de conteurs. Ouais. Il y a des conteurs quand même qui racontent devant 500 ou 1000 personnes. Donc, moi, ce n'est pas trop ce que j'aime. Je l'ai eu fait de faire 200 personnes. Mais donc là, c'est moins intime. Dès qu'on dépasse un certain nombre, c'est moins intime.
Mais justement, le fait d'être devant 200 personnes, ça nécessite un moyen d'apport sonore, peut-être, pour se faire entendre. Ou alors, il y a aussi ce côté très humain, un rapport humain entre la voix et l'oreille.
De manière générale, les conteurs n'aiment pas les micros. Donc aujourd'hui, c'est une exception, mais de manière générale, c'est ça. Voilà. Mais moi, quand je suis allé au Maroc, il y avait 200, 300 personnes et il s'agissait de se faire entendre. Alors, donc il y a toute situation possible pour les conteurs. Je crois qu'on se rejoint sur effectivement une intimité de la relation, d'aimer voir le public aussi, effectivement, comme disait Virginie, d'avoir un direct de la bouche à l'oreille, et au cœur, à l'âme, en fait, de toucher l'émotion tout de suite, directement, quoi.
Avant de continuer, je proposerais bien à l'un de vous s'il pouvait nous, peut-être, donner un extrait de conte. Mm-hmm. Jérémy.
Je vois que le regard se tourne vers moi. Je vais en sortir un de ma poche. Alors attends, on va taper les pieds parce que parfois on dit que les contes ils sont dans le sol comme des graines et que pour qu'ils puissent sortir par la bouche, il faut que ça rentre par les pieds, que ça monte. Parce que nous on est des animaux qui sont faits de telle sorte que la bouche est tout en haut, les pieds sont tout en bas. Donc il faut que ça monte. Et puis quand ça a eu le temps de germer un peu dans le corps du tuyau qui est le conteur. Pourtant, j'aime bien dire qu'on est seulement des tuyaux, hein, en fait. On est une échappatoire d'histoires qui nous traversent. Il y en a quelques-uns qui sont là, ouais.
Il y a cet art du conte. Comment s'acquiert-il ?
Vaste question.
Ouais. Pour chacun, comment vous êtes lancé dans cette activité de conteur ?
Je pense qu'on a chacun des chemins peut-être assez personnels avec ça. Ouais. Je crois qu'il y a pour moi, il y a eu un moment comme de rencontre avec les contes au-delà de l'enfance. Une fois passée l'enfance, vraiment plus tard, à l'âge adulte, une espèce de tomber dedans, d'en écouter, d'être fascinée. J'ai des images aussi de grands conteurs, de gens qui m'ont vachement marquée. Pour moi, il y a eu un premier stage. Maintenant, c'est vrai qu'il existe des stages où il y a quelqu'un, un formateur qui vient comme ça, un peu transmettre des outils ou des choses pour nous guider et pour les premiers moments raconter, se lancer. Moi, je savais pas que j'allais aimer ça. Hein. Ça m'est un peu tombé dessus. Voilà.
Moi, j'ai découvert ça dans le désert marocain. Le but, c'était d'aller marcher. C'était marcher 3 semaines. Et quand on est dans le désert marocain, qu'on suit le pas du chameau, on est un peu saoul. On est ivre. Et il se trouve que, une soirée, j'ai raconté deux blagues que j'avais dû entendre dans une radio de rire et de chansons. Et ces blagues, je les ai un peu étirer, parce que je voyais que ça faisait rire. Et en même temps, je voyais que ça apportait de l'émotion à certains passages. Donc, j'ai senti qu'il y avait quand même des étoiles dans les yeux et qu'il y avait un lien qui se créait. Et puis après, j'aurais pu en rester là. Et en fait, il se trouve que le lendemain, la marche suivante, on me disait « Et ce soir, on aura encore des histoires ?» Donc, et c'est là que ça a commencé le virus. Et après, je me suis formé, effectivement, en revenant en France.
Ce que vous dites, Philémon, c'est en fait de partir d'un texte déjà existant et que vous l'étiriez ensuite. Ça nécessite une part d'imaginaire aussi, de pouvoir le vivre et de le transcrire.
Oui. C'est ça, en fait.
C'est une connaissance qui s'acquiert quand même ou alors il y a une certaine... c'est plutôt inné pour certains.
Je ne sais pas, mais c'est une pratique qui se peaufine au fil des formations et de la pratique courante du conte. Alors, moi, je travaille beaucoup les contes de répertoire, qui sont les contes de Grimm, les Mille et une nuits ou autres. Mais on dit que ces contes-là, il faut les nourrir. Donc, quand on dit qu'il faut les nourrir, c'est-à-dire qu'il faut donner de son imagination, de sa terre intime. Et ça fait un conte au final.
Je pense que c'est vrai qu'il y a, pardon, je prends la parole. Il y a tout un travail souterrain qui peut se faire en groupe avec des fois avec d'autres conteurs. On est content de entre pairs de pouvoir. Et puis ensuite, il y a une histoire. On la raconte une fois, on la raconte deux fois. Moi, il y a des histoires. Je les ai racontées une fois. Puis finalement, c'est pas ça, c'est celle-là qui accroche. Puis il y en a. En fait, ça y est, celle-là, c'est mon histoire, quoi. Et ensuite, il y a tout un. Moi, je nourris de plein de choses, de choses que je vois quand je me balade, de rêves. Il y a tout un temps pour moi de rêverie et un temps quand même aussi d'écriture qui n'est pas une écriture, j'écris pas du tout mot à mot, mais j'écris vraiment un scénario. Et puis j'ai des petites techniques comme ça pour comme naviguer dans l'histoire. Et toute cette navigation, je la redonne pas du tout mot à mot, mais elle fait que l'histoire, moi je dirais, mon but, c'est de la connaître aussi bien que si je l'ai vécue, quoi. Et du coup, c'est pas dur de raconter, parce que c'est comme quelque chose que j'ai vécu, comme quand quelqu'un il rentre de vacances, bah, c'est pas dur de raconter ses vacances, on sait ce qu'on a fait. Et c'est, pour moi, c'est là où j'ai bien une histoire. Je la connais aussi bien que mes meilleures vacances, quoi.
Ouais, c'est ça.
Ben, c'est là où ça rejoint pour moi un truc hyper important qui est plutôt la notion de récit que la notion de texte. Pour moi, le conte, c'est pas du texte, en tout cas pas au départ. Et c'est ça qui nous différencie énormément, par exemple, du théâtre. Le théâtre, c'est d'abord un texte et après, évidemment, des gens qui le jouent. Mais ça part d'un texte, c'est-à-dire c'est ciselé, on ne va pas changer un mot pour un autre, sinon ça se casse la figure. Le conte, pour moi, ce n'est pas du tout ça, c'est plus un synopsis de cinéma, comme disait Virginie. Et en fait, c'est un récit qui peut aussi bien être... On peut l'avoir reçu aussi bien oralement que par écrit. Contrairement à d'autres pratiques où en fait il n'y a pas d'autre solution que l'écrit, bah là on appuie très bien, c'est souvent le cas des blagues, hein. On nous les raconte, on retient pas, on en fait un truc, on l'étire ou machin. Mais c'est vraiment ça qui permet cette transmission orale et pour moi c'est la spécificité du conte, c'est ça, c'est du récit qui a une structure et qui pendant des millénaires a été transmis oralement, maintenant il est aussi transmis par écrit simplement parce que la transmission orale, bah, en fait elle a disparu de nos familles, elle se fait plus dans les familles, dans les communautés rurales. Mais elle peut se faire par groupe de pairs, elle peut se faire parce qu'on va à un festival, il y a une histoire qui nous rentre dans les oreilles, on dit « Oh non, mais là, ça, c'est un truc de dingue, je vais la garder, cette histoire, je vais la bosser, je vais me faire mon petit schéma et ça va devenir la mienne. » Et puis pour rebondir encore à ce que disait Virginie, c'est pour moi, les histoires, en tout cas, qui nous restent, c'est comme des galets, en fait, ou en tout cas des pierres qui étaient un peu avec des aspérités. Et puis, en fait, à force de les polir, donc de les raconter, de les travailler, bah, en fait, ça devient vraiment le petit galet précieux qu'on garde dans la poche. Et en fait, on pourra la raconter mille fois, cette histoire. Déjà, elle ne sera jamais exactement pareille. Elle aura juste gardé sa structure, sa colonne vertébrale. Et en fait, on n'aura pas de lassitude. On sera bien avec, on sera heureux avec. Puis d'autres histoires, une fois, deux fois, quatre fois. Puis, au bout d'un moment, non, c'est plus ça. On n'a plus une connexion comme on avait, donc ben, on la laisse se reposer, et puis peut-être qu'elle ressortira plus chez nous, mais peut-être chez quelqu'un d'autre. Ouais, c'est vraiment ça, je trouve.
Le conteur, je suppose qu'il doit être aussi très à l'écoute de son public, et de là à ressentir ce qu'il y a à donner pour le captiver.
Oui, oui, mais en fait, c'est ça, il y a parfois un jeu de rebondir sur le public, sur ce qui se passe. Un chien, par exemple, qui passe, et quelqu'un qui a une intervention dans le public. Donc, effectivement, ça peut se faire. Ça, moi, j'arrive à l'intégrer régulièrement, effectivement, ces émotions du public, y rebondir dessus. Oui, c'est...
Ouais, après, comme on disait tout à l'heure, il y a diverses pratiques de conte qui dépendent déjà de nos personnalités, puis de un petit peu comment on a été formé. Et moi, j'aime assez bien déjà être dehors et je travaille en partie en extérieur et notamment le compter dehors, bah forcément, c'est forcément être, comment dire, au minimum attentif, voilà, au milieu extérieur, voire en jouer. Et du coup, on peut garder ça quand on compte dedans. Du coup, notre milieu extérieur, quand on est dedans, bah, c'est principalement le public. Puis des fois, peut-être une porte qui s'ouvre, qui se ferme, un objet qui tombe. Et moi, j'aime assez bien pouvoir intégrer dans l'histoire ou rebondir sur ces petits événements qui pourraient être perturbants, hein, totalement. Hein. Ou même, là, c'est le classique, un enfant qui est devant, puis qui se met un peu à faire n'importe quoi parce qu'il en a marre, il est agité ou il n'est pas bien. Et qu'est-ce qu'on en fait, quoi ? Est-ce qu'on laisse le truc grossir et là, ça devient la cata ? Ou est-ce qu'on, hop, on essaie de le récupérer dans l'histoire, enfin, de le mettre dans l'histoire d'une façon un peu amusante pour que lui, ça l'amuse et qu'il se calme ? Ou faire comprendre subtilement aux parents que là, il faut intervenir parce que sinon, c'est plus possible. Mais c'est toutes ces petites perturbations qui sont, je trouve, intéressantes à intégrer au conte.
Par rapport à la notion du conte, dans mon imaginaire, c'est plutôt le conteur qu'on peut découvrir dans les villages. Mais est-ce que dans les villes, aujourd'hui, dans les cités urbaines, il existe aussi des conteurs ?
Moi, j'ai été pendant 25 ans, conteur urbain. Donc, je travaillais dans les quartiers nord de Marseille et je racontais beaucoup dans les centres sociaux des quartiers nord, en école coranique, en école juive des quartiers nord, et puis dans les fêtes populaires de vivre ensemble. J'ai beaucoup fait ça, en fait. Moi, je ne vois pas la différence parce que c'est des vrais gens partout, quoi, en fait. Donc, ça me perturbe pas plus. Ça existe, conteur de ville, ça existe.
Virginie, vous proposez des contes. Peut-être qu'on va aussi, je vais vous demander à chacun de vous, quel type de contes vous proposez au public ?
Moi, je raconte quand même assez souvent pour des publics, des jeunes publics. Donc ce matin, par exemple, c'est très différent, c'est très spécial, j'étais dans une crèche à Châtillon. Donc là, évidemment, c'est de la micro-histoire, quoi. C'est de la micro-histoire. C'est déjà une histoire, mais c'est une micro-histoire. Et j'utilise des objets, des petites marionnettes ou des visuels. Ce que je ne fais pas du tout dès que les enfants sont plus grands. Dès que les enfants ont 3-4 ans, en fait, je suis juste là. Et moi, j'utilise, dès que les enfants sont plus grands, des histoires, ce qu'on dit du répertoire. Ça veut dire des histoires que moi, je n'ai pas inventées. Je trouve une histoire. Souvent, je la trouve dans un livre. Et en général, moi, j'ai beaucoup d'histoires qui viennent de plein d'endroits du monde. J'aime bien créer des liens. Comme Jérémy, je raconte des fois dehors. Et du coup, évidemment, en été, je vais raconter plus une histoire qui dégage quelque chose de chaud. Donc, je vais avoir des histoires d'Afrique. Il y a des histoires du Japon. Il y a des histoires de différentes zones de l'Europe. Des histoires des Indiens d'Amérique du Nord. J'essaye de faire des liens aussi avec ce que je vois, la végétation. Il y a beaucoup d'histoires aussi sur la naissance du monde où on dit des contes étiologiques qui vont expliquer comment un animal, un phénomène est arrivé. Voilà.
Ça aussi, c'est une source d'inspiration, c'est de se cultiver aussi pour pouvoir amener l'imaginaire. Est-ce qu'il y a cette notion de culture générale chez un conteur pour partager, faire mieux comprendre les données ?
Moi, personnellement, c'est plus ma manière de travailler les contes. De plonger dans le répertoire, c'est pas du Shakespeare tout ça, c'est les contes de Grimm, c'est les contes Gilgamesh, les contes de Mésopotamie, c'est les grands contes norvégiens, c'est des grands pays d'oralité où il y a eu des grands contes qui racontaient une grande histoire avec beaucoup de fougue. Et ça, c'est ça qui m'a marqué. J'ai un grand conte norvégien, le premier conte écrit par les Norvégiens que je raconte beaucoup, qui s'appelle Le Compagnon. Et voilà, donc j'aime bien avoir des grands contes, moi. Et j'aime bien répondre à des demandes de grands contes. Par exemple, j'ai pas mal raconté pour la Confédération paysanne un grand conte écologique sourcière qui dure 1h15 et qui est un grand conte d'une lutte écoféministe. Donc voilà, et ça a demandé à travailler, à aller chercher dans Giono, l'homme qui plantait des arbres, dans des livres un peu de ce registre-là, pour être un peu juste sur les terres sèches, sur l'eau qui se raréfie, tout ça. Donc voilà, ça demande du travail, soit documentaire, soit littéraire. Donc c'est un peu ça le boulot, quoi.
Oui, Jérémy, juste pour rebondir avec tout ça, oui, bah pareil, moi, ma source, c'est vraiment ce qu'on appelle la littérature orale, hein, donc les fameux répertoires de contes. Toutes les régions du monde ont des contes. Après, ils ont été, heureusement pour nous, ils ont été collectés souvent au 19e. Bon, voilà, ça peut être un peu avant, un peu après, quoi. Et on les a à disposition. Et en fait, c'est une masse tellement énorme, en fait, de contes riches et possibles. Que, enfin, moi je vois pas le besoin d'aller chercher en dehors de ça, c'est-à-dire d'inventer. Moi j'ai un peu du mal, pour moi, à quelque chose qui serait inventé de toute pièce. Pour moi, j'ai un peu du mal à considérer que c'est du conte, parce que le conte, pour moi, il a forcément un côté comment dire,
une ossature en quelque
oui,
sorte.
Oui, il y a une ossature qui vient du passé. Et en fait, c'est des humains comme nous, mais du passé, qui ont travaillé pour construire un outil. Après, cet outil, bah forcément, il évolue parce que le temps passe. Et toi, tu récupères cet outil. Tu le digères, on va dire, et ensuite bah, tu en fais ce que tu dois en faire selon ton public et puis l'émotion que tu as à mettre dedans. Mais tout ça pour dire que ouais, les répertoires, ils sont tellement riches. Voilà, moi j'aime bien, je suis breton de culture, donc évidemment je pioche là-dedans. Et puis aussi, suite à une commande il y a des années, j'ai découvert les contes de Norvège, et depuis je trouve que c'est toujours une filière où je vais piocher, parce que j'aime vraiment bien. Des contes méditerranéens, on sent aussi les ambiances culturelles. Moi j'aime bien aussi le côté, avec certains contes ça se sent pas, mais faire ressortir l'ambiance culturelle du conte et dire ce conte là en fait il nous donne quelque chose. Bon, il raconte une histoire, hein, il s'est passé ci, il s'est passé ça, tel coup de cause, telle conséquence, mais derrière il y a une couleur qui est la couleur culturelle de la communauté qui, pas forcément a produit, mais en tout cas a transmis ce conte à un moment, et ça nous donne la diversité culturelle de la planète Terre, et c'est génial en fait, avec peu de moyens, nous-mêmes, notre personne, notre voix, un lieu, un peu calme, et puis hop, ça y est, on est transporté avec le public dans une autre ère culturelle, partie du monde, et ça, c'est quand même le pouvoir des contes, assez incroyable, quoi.
Vous écoutez l'interview du jour sur RDIWA,
la radio du Diwa,
107.5,
101.7
FM.
Je reviens sur cette question que j'avais oubliée, donc Virginie, vous parliez entre autres, Philémon, de cette possibilité dans le nord de Marseille d'avoir pu compter pour des enfants de quartier. Est-ce que pour vous, Virginie, vous parliez vous-même de crèche, est-ce qu'il y a un programme, est-ce que vous avez une présence du conteur dans les écoles aujourd'hui?
Ici, dans le Diwa, j'interviens pas très régulièrement dans les écoles. Donc, c'est un peu selon les demandes, les propositions. En fin d'année dernière, je suis intervenue sous forme de balade contée avec l'école de Luc et une fois à l'école de Di. Je sais qu'à l'école de Di, il va y avoir, je pense, un petit essai avec quelques classes sur une dynamique qu'on appelle de cercle conteur. Mais c'est pas moi qui ni aucun de nous là qui intervient. Voilà, c'est des choses volontiers pour les lancer et les mener. Après, on peut pas. Voilà, des fois, moi j'ai aussi fait ce que je pouvais faire.
Début 2025, il y aura quelques séances de cercle conteur à l'école Caminando que je ferai, l'école alternative qui est
à Maglon.
Maglon, voilà, c'est ça.
J'aimerais bien savoir si quelqu'un de vous pourrait nous proposer un deuxième extrait.
Ben, je vais parler d'amour. Une histoire d'amour entre un cerisier et un rossignol. Le rossignol aimait tellement le cerisier, il tournait autour. Avec ses ailes, il caressait les branches et les feuilles du cerisier. C'était un bel amour, vraiment. Puis le cerisier fleurissait une fois par an pour son petit amour qui vole. C'était émouvant. Ils étaient épris, mais ils ne savaient pas totalement s'y prendre. Parce qu'un jour, l'amour, ce n'est pas facile, on le sait. Hein. Et un jour, les reproches. Et c'est le rossignol qui a lancé les premiers reproches. Il a dit à son amour, « Moi, j'aurais aimé vraiment voyager avec toi, mais... mais t'es plombé là, t'es planté dans le sol. C'est vrai quoi, tu bouges pas. Moi, j'aurais vraiment voulu voir du pays avec toi, mais non, t'es là. Et puis aussi, tu fleuris qu'une fois par an. C'est pas beaucoup quand même. C'est pas un gros effort. Voilà, il en était là. Mais dans ces cas-là, l'autre, il se croit obligé de répondre. Alors, le cerisier, il a cherché. Il a dit au rossignol, toi, t'es un peu hyperactif comme garçon aussi, toi. Tu bouges beaucoup, tu bouges tout le temps. Tu changes tout le temps de branche. Je sais jamais où tu es. Et puis, je suis sûr que tu vas voir d'autres arbres. L'amandier, il te plaît, hein, l'amandier. Hein. Il est beau, l'amandier aussi. Et puis aussi, je trouve que tu chantes trop, quoi. Le silence de la forêt, toi, tu connais pas. Enfin, voilà, quoi, on peut toujours trouver des reproches dans l'amour. Ils étaient épris, mais ils ne savaient pas s'y prendre. Heureusement, là-haut, on a le soleil. Et le soleil, c'est quand même une divinité. Le soleil, il a des outils quand il voit des amoureux qui ne savent pas s'y prendre. Il a mis une bulle de bienveillance autour d'eux. On appelle ça la bulle de bienveillance et d'amour. Il les a entourés comme ça. Ils ont fini l'hiver comme ça, dans la bulle de bienveillance. Et c'est au premier jour du printemps que ça s'est passé. Vous voulez peut-être savoir ce qui s'est passé au premier jour du printemps. Eh bien, au premier jour du printemps, le cerisier s'est envolé et le rossignol a fleuri.
Merci beaucoup, Philémon. Le collectif des contents qui organise donc cette soirée de contes, c'est un désir de vous-même, donc, de vous réunir. Et qu'est-ce que ça pourrait aussi découler pour la suite?
Alors là, en décembre, donc il y a cette soirée à Andarta, vendredi 20 décembre. Et en fait, on s'est réunis autour du projet, le projet fédérateur, c'est d'organiser une nuit du conte. Et donc la nuit du conte, on a envie que ce soit une longue nuit, où les histoires s'enchaînent et où les gens viendraient écouter en se laissant comme ça vraiment un peu bercer, vraiment prendre, vraiment emmener dans cet univers sur une durée, voilà, se donner vraiment, vraiment du temps. Et donc ce projet-là, on ne sait pas exactement la date, mais ça sera autour de l'été, avant, après, dans cette zone-là. On voudrait que ça soit à 10 ou autour. C'est ça qui nous a un peu rassemblés. On avait, je pense, chacun vécu des nuits du conte, soit en tant que spectateur, soit en tant que conteur. Moi, ça a été une de mes expériences très marquantes. J'ai vécu ça avec des grands, grands conteurs à Vassivière, dans la Creuse. Et voilà, c'est quelque chose de marquant d'entendre des contes, presque de s'endormir, de se réveiller à moitié. Ah ben, il y a encore des histoires. Avec cette espèce d'imaginaire, je trouve un peu dingue de... En fait, il y a toujours quelqu'un qui raconte une histoire et c'est comme si c'est un socle, quoi. Il y a des histoires qui sont racontées, qui viennent d'ailleurs, de plus loin. Et il y a comme un message aussi un peu mystérieux, mais un peu soutenant, quoi. Voilà.
Merci Virginie. Jérémy Legland, vous-même, êtes conteur professionnel ou alors est-ce que vous agissez au sein d'une structure associative également?
Ouais, bah c'est bien comme ça, on parle de ce point-là. Non, là, c'est pas ça qui me fait vivre en ce moment. Après, pour les conteurs, c'est souvent une histoire de quel taux d'activité. Est-ce que c'est ton unique activité, on va dire, à plein temps et qui te fait vivre, ou est-ce que c'est une activité parmi d'autres, quoi, comme on peut être en pluriactivité. Donc moi, il y a eu juste une période de 4-5 ans où c'était ma deuxième activité professionnelle, donc ça contribuait à me faire vivre, à me faire manger. Là, c'est plus le cas, c'est pas une activité pour rémunération, on va dire. J'avais un peu calmé au niveau du... C'était surtout la partie démarchage du compte là, qui est assez épuisante. À un moment, j'en avais vraiment, vraiment marre. Puis je pense que j'avais moins d'énergie. Le compte, ça demande beaucoup d'énergie aussi. J'avais moins d'énergie pour ça. Et j'avais gardé ma première activité d'éducation environnement. Et puis là, depuis quelques années, ça revient. Le compte, il revient tranquillement. J'ai dit, voilà, t'as eu ton petit temps de repos là. Voilà, j'ai envie de ressortir là. Donc, ça refleurit là. Voilà. Mais donc, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est pas une activité professionnelle. C'est une activité, on va dire, annexe, mais que je fais avec, comment dire, conscience et plaisir quand même, il n'empêche.
Voilà. Philémon, je vous repose la même question. Est-ce que vous agissez au sein de structure?
Depuis 6 ans, je suis compteur professionnel. Alors, j'ai aussi une retraite du travail social qui est toute petite, qu'on ne fait pas toutes les années, voilà, le jeu habituel. Mais voilà, depuis 6 ans, j'ai basculé en compteur professionnel parce qu'à Marseille, j'avais 2 musiciennes alternativement qui jouaient avec moi et dont je suis content qu'elles aient obtenu l'intermittence par ce biais, quoi. Donc, moi, professionnel, effectivement, c'est ce qui est lourd, c'est le démarchage quand on n'a pas de structure de production qui nous diffuse. Alors, j'ai aussi 2 associations qui me soutiennent dans cette activité. Une qui s'appelle Plaisir d'apprendre et une qui s'appelle Chansigne. Parce que sur le DIY, j'avais commencé à raconter avec Maurice Benin, puisqu'on a fait quand même quelques spectacles avec lui, contes et chansons réunis. Donc, c'est un peu ce qui m'a attiré à quitter Marseille et à venir dans le DIY, quoi, en fait. C'est grâce à Maurice, qui était une grande personne.
Virginie, vous-même, hein, vous agissez aussi, hein, je crois.
Oui, moi, je suis sur une pluriactivité. Donc, je dirais que j'ai 2 activités et le compte, c'est une des 2. Et... Après, par exemple, avec Jérémy, on se connaît depuis longtemps. J'ai l'impression qu'il y a, avec les comptes, on peut être comme ça aussi, comme très impliqué, mais c'est pas forcément la seule profession. Enfin, voilà. Avec Jérémy, on s'était rencontrés autour d'une manifestation qui était plus vers le Crétois à Cobonne, une nuit du conte qui avait eu lieu par là-bas. Et où, voilà, moi je comptais avant d'être dans le DIY et j'ai eu des fois l'impression que j'allais arrêter. En fait, non, j'arrête pas. C'est aussi une chose un peu personnelle, le rapport au compte. Donc ça suit aussi, je pense, un peu nos évolutions de vie, qui on devient, ce qu'on a envie de dire, en fait. Quelque part, quand même, on est un peu, on transmet quelque chose et l'histoire, elle nous... C'est un média, quoi. Donc, selon les moments de vie, ça peut prendre des formes un peu différentes. Moi, par exemple, je me mets en ce moment à plus raconter vers des plus petits, mais je savais pas, il y a 15 ans, que j'allais m'orienter vers ça. Au début, moi, quand j'ai commencé à raconter, je connaissais pas le monde de l'enfance. je voulais raconter à des adultes. Et ça change beaucoup. Moi, par exemple, avec les enfants, ce que j'aime beaucoup, c'est que je raconte avec moins de mots et plus de mouvements. En ce moment, ça m'intéresse vachement.
Par rapport à cette soirée, comment se déroulera-t-elle? Est-ce que chacun passera successivement ou alors est-ce qu'il y aura des interactions entre vous?
Ce sera un partage de contes comme ça se fait dans une veillée, sauf que nous quatre, on aura préparé les contes et on aura préparé la nourriture, en fait. Donc, on dira nos comptes chacun et on va essayer d'organiser un peu que ça soit cohérent, que ça se réponde aussi, que ça soit dans un esprit de ce mois de décembre où à la fois on se renferme parce que la terre inspire et puis qu'en même temps il y a un esprit de fête un peu quand même. Donc voilà.
On a en tête que c'est une soirée ouverte pour le tout public. On a marqué ouverte pour les enfants à partir de 7 ans. Et du coup, on s'est dit qu'évidemment, sur le début de soirée, les histoires, elles seront plus accessibles pour les jeunes oreilles. Et peut-être, quand la soirée avance, voilà, le répertoire, il va un tout petit peu évoluer comme ça dans le fil de la soirée. Et il y aura, je pense, un temps un peu de pause pour aussi que les gens avec enfants plus jeunes
puissent s'esquiver.
Voilà, que ça s'adapte comme ça et que ça soit un peu fluide, quoi.
Et on peut peut-être terminer cette émission avec une dernière intervention, celle de Virginie, pour un extrait de conte.
En fait, ça se passe pas très loin d'ici. Parce qu'en fait, si tu prends... quand tu sors, tu vois, tu prends à droite. Après, tu tournes encore à droite Et là, il y a la place, tu connais la place. Et après la place, tu prends la ruelle. Là, dans la ruelle, là, c'est la maison de Pietrino. Pietrino, tu le connais ? Non ? Ah bah, Pietrino, bah, en fait, dans le quartier, tout le monde le connaît. Parce que Pietrino, c'est une grande famille chez lui. Hein. Il y a sa grand-mère, il y a ses tantes, il y a ses cousines. Et chez lui, c'est chez lui que tu manges les meilleurs gnocchi. Bah oui, parce que sa grand-mère, elle vient de l'Italie. Bah oui, il y en a pas mal comme ça, des familles qui sont venues de loin pour s'installer à Die. Et d'Italie, il y en a. Hein. Ah ouais, alors chez eux, les gnocchi, la sauce tomate, oh, c'est bon. Et ce jour-là, chez Pietrino, ça sent les gnocchi à la sauce tomate. Oh, ça donne envie. Oh, et les gnocchi, aujourd'hui, eh ben, c'est pas pour lui. Ah non, c'est pas pour Pietrino. C'est pour qui ? Ah ben, c'est pour qui ? Allez, les gnocchi, tout le gros plat de gnocchi, c'est pour Baborco. Baborco ? Baborco ! L'ogre, celui qui habite là-haut, là. Tu sais, celui à qui il faut apporter chaque jour, il faut qu'une famille lui apporte un gros plat, quelque chose à manger. Sinon, c'est jusqu'à la ville qu'il descend. Alors jour après jour, chacun se relaie. Et aujourd'hui, c'est à la famille de Pietrino d'apporter à Baborco. C'est Pietrino lui-même qui va porter le plat. Il commence le chemin. Je m'arrête là.
Merci Virginie et merci à vous trois dans l'ensemble, Philémon Garcia, Jérémy Legland et donc Virginie Cointepas pour nous présenter cette soirée de contes. Je ne vais pas répéter encore la date et le lieu, hein, mais tout le monde connaît Andarta Adi. Et je vous souhaite une bonne soirée. Juste une dernière chose, on n'a pas parlé si un petit peu, mais la musique, quelle est la place du musique dans l'univers du conte ?
J'ai beaucoup tourné avec des musiciens et pour moi, la musique peut raconter. En fait, la musique, ce n'est pas seulement une illustration et un support sur lequel on parle. C'est une manière de raconter autrement, sur les contes orientaux, d'apporter cette culture orientale. Toutes les musiques, en fait, racontent. Donc, c'est comme ça que je l'ai vécu, moi. Et bon, malheureusement, ben, maintenant, au début, je m'accompagnais avec ma guitare aussi, mais j'ai bien vite compris que j'étais un guitariste moyen, donc je n'insiste pas trop sur ça. Mais en fait, je ne pars pas à la recherche d'un musicien, mais si un jour il y a un accompagnement musical qui vient à moi, je serai ravi parce que pour moi, c'est complémentaire du conte.
Moi, j'ai des fois collaboré avec des musiciens. Ici, sur le Diwa, j'ai collaboré avec un contrebassiste. Et c'est une super... C'est un super partage. Ça se répond, ça se mélange. La musique, elle permet tout le temps de mystère, tout le temps d'intégration, tout le temps de suspens. Voilà, après... on verra s'il y a des musiciens cette fois-ci ou les fois d'après. C'est ouvert, c'est possible.
Ouais, pareil, rapidement. Ouais, pour moi, la musique, c'est une autre voix du conte qui raconte aussi. Et je n'ai pas eu souvent l'occasion de collaborer avec un musicien, mais pour un spectacle, en tout cas, une histoire de Nasreddin et de Babouche et de prison avec un ami qui joue du violoncelle, on avait monté quelque chose là, c'était vraiment ça là, le violoncelle disait quelque chose, ça complétait le récit et voilà, c'est pas souvent on pense au côté ambiance, effectivement la musique va donner une ambiance, mais elle peut aussi raconter donc c'est pour moi c'est une alliée du conte. On n'est pas parfois on n'a pas de musicien ou nous-mêmes on joue pas, donc on va faire sans et ça ira très bien, mais c'est vraiment un plus qui est assez énorme quand on a la chance de pouvoir avoir des musiciens avec soi.
Je vous remercie et bonne soirée à vous trois.
Merci
beaucoup.
Merci.
Au revoir.